Alors ce matin, on fête déjà Noël avec les enfants, parce qu'à partir de dimanche prochain, c'est déjà les vacances, donc il y en aura qui ne seront pas là. Mais en même temps, on n'est que le troisième dimanche de l'Avent, on est dans un déjà et un pas encore. Alors on va quand même continuer à se préparer à l'événement de Noël. Ils ont beaucoup rappelé les événements. Moi ce matin, je vais nous faire réfléchir à quelque chose qu'on entend beaucoup au moment de Noël. Qu'est-ce qu'on dit à tout le monde, croyant comme non-croyant? On dit que pendant la période de Noël, il faut... Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? Il faut quoi? Partager. Donner du chocolat? Ouais, c'est pas mal ça. Être généreux. Être joyeux. Bien manger, oui, aussi. Vous l'avez dit, il y a quelque chose qu'on entend partout. On dit en fait qu'il faut faire de bonnes actions à Noël. Hein. On dit voilà, il faut être bon, il faut faire le bien à Noël. C'est marrant, on dirait que toute l'année, c'est pas grave d'être égoïste. Mais à l'approche de Noël, on nous parle de penser aux autres. On nous parle d'être généreux, on nous parle de faire plein de bonnes actions. Et ça m'a fait penser à un texte biblique qui nous parle de tout, de faire tout un tas de bonnes actions. Mais je pense que parfois, peut-être on ne le comprend pas bien. On le comprend peut-être comme le monde nous parle des bonnes actions. Ce texte se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 31 à 40. Ce matin, il va falloir bien écouter, parce qu'il n'y aura rien de projeté au niveau des textes. Donc je vais vous lire ce texte de Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 40. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est Jésus qui parle à ses disciples, hein, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui, alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade, ou prisonnier, et sommes-nous venus te rendre visite ?» Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Alors dans ce texte, Jésus fait toute une liste de bonnes actions possibles. Et je pense que par le passé, beaucoup de chrétiens ont été très motivés par ce texte pour faire de bonnes actions. Ils se sont dit peut-être, moi aussi je vais faire ces choses, moi aussi je veux faire tout ça pour le Seigneur. C'est bien d'être motivé pour les bonnes actions pour le Seigneur. Il y a peut-être aussi beaucoup de chrétiens qui ont été motivés par la suite du texte. Je ne l'ai pas lu, mais la suite, c'est Jésus qui dit en fait exactement la même chose au reste des humains, mais en leur disant l'inverse. En fait, vous n'avez pas voulu faire toutes ces bonnes actions, et du coup, il les condamne. Ces deux choses, ça peut motiver une bonne action. On peut faire la bonne action pour recevoir, nous aussi, les félicitations de Jésus. Ou on peut faire une bonne action pour éviter d'être condamné par Jésus. C'est sûr que ces deux choses, ça motive énormément. Mais pour moi, aucune de ces deux motivations n'est bonne. Aucune. Même pas celle de vouloir faire plaisir à Jésus, ou en tout cas de vouloir recevoir les félicitations de Jésus. Pourquoi ? Parce que ces deux motivations sont finalement tournées vers nous-mêmes. On pourrait appeler ça des motivations égoïstes, même celle qui paraît bonne. Mais dans notre texte, il y a quelque chose de vraiment dingue, je trouve, chez ceux et celles qui font les bonnes actions. Faites attention, Jésus leur dit, « Merci, c'est vraiment génial tout ce que vous avez fait dans votre vie, vous m'avez servi, vous m'avez aimé, vous m'avez consolé, vous m'avez nourri, vraiment, merci. » Et les autres répondent, « Ah bon ? J'ai fait ça, moi ? Quand ? » Ils n'ont pas fait une bonne action pour plaire à Dieu. Ils n'ont pas fait une bonne action pour éviter le jugement de Dieu. Ils n'ont pas fait une bonne action pour être félicités par Dieu. Ils ne s'étaient même pas rendus compte qu'en faisant le bien, ils faisaient la volonté de Dieu. Ils n'ont absolument pas pensé à eux-mêmes ou à ce que ça pourrait leur rapporter. Ils ont aimé leur prochain et puis c'est tout. C'est très différent comme motivation. Ils ont simplement été motivés par leur amour pour les autres. Ils n'ont pas été motivés parce que ça leur rapporterait. On est très très loin de l'appel de ce monde à faire le bien au moment de Noël. Parce que ceux qui font le bien juste au moment de Noël, pour l'occasion seulement, eh bien ces personnes n'agissent pas vraiment par amour pour les autres. Ils le font en bonne partie, je pense, par amour pour eux-mêmes. Ils veulent juste se sentir bien, être contents d'eux-mêmes. Ou peut-être est-ce qu'ils veulent être félicités ou remerciés par les autres. Peut-être veulent-ils pouvoir se dire à eux-mêmes devant le miroir « Je suis quelqu'un de bien, qui fait le bien autour de moi ». La motivation est extrêmement différente. Et pour Dieu, la motivation, l'orientation de notre cœur, c'est primordial. J'ai fait il y a quelques semaines une formation destinée à ceux et celles qui ont un ministère relationnel, hein, c'est-à-dire ceux et celles qui accueillent, qui visitent, qui écoutent, qui accompagnent des personnes. Et dans cette formation, on a notamment discuté, entre autres, je ne vais pas tout vous résumer, il y avait 32 heures de formation. On a parlé, un petit bout de cette formation, de ce que je pourrais appeler peut-être le syndrome du sauveur, on va dire. Alors, syndrome, mais ce n'est pas une maladie, rassurez-vous. Et puis c'est quelque chose qui nous est tous déjà arrivé. Peut-être juste vous n'en aviez pas conscience. C'est quand on voit une personne qui semble en galère et qu'on se dit « Tiens, cette personne a besoin de moi. Il faut que je l'aide. » Remarquez, on n'a rien demandé à la personne encore. On n'a posé aucune question. Peut-être qu'on n'a pas bien compris la situation non plus, on ne sait pas. On n'a pas cherché à savoir. Mais on est déjà arrivé à la conclusion qu'il faut que moi, je vienne aider. Ça vous est déjà arrivé ? Moi aussi. Dans ces moments-là, on a l'impression de faire une bonne action, de montrer de l'amour. Et pourtant, bien souvent, on n'a pas forcément vraiment aidé l'autre. On ne l'a pas vraiment aimé. Parce qu'on ne s'est pas vraiment intéressé à lui ou à elle. Mais c'est en fait à nous-mêmes qu'on a fait le plus de bien, parce qu'on repart heureux de notre bonne action. On a répondu à un besoin intérieur, personnel, celui de pouvoir nous dire à nous-mêmes « Je suis quelqu'un de bien qui fait le bien ». Alors si en plus la personne qu'on a aidée nous dit « Merci », là intérieurement c'est un feu d'artifice. Ça prouve bien qu'on attendait ce « Merci ». En revanche, si la personne nous répond « De quoi je me mêle ?» Là, on se vexe. Mais pourquoi on se vexe ? On se vexe parce qu'on n'a pas obtenu la récompense qu'on attendait. On ne venait pas vraiment aimer l'autre. On ne venait pas réellement, profondément aider l'autre. Tout au fond de nous, même peut-être inconsciemment, sans se l'avouer, on voulait une récompense. On voulait un merci, on voulait se sentir bien, on voulait être nécessaire, on voulait être un sauveur. Je vais vous donner un exemple concret, pas un exemple de moi, hein, je ne vais pas mouiller quand même autant. Au dernier rassemblement jeunesse nationale qu'on a organisé, qui était fin octobre, on a invité un orateur que beaucoup ici connaissent, Flavien Negrini, qui est pasteur à Poitiers, pas très loin d'ici. Et pour être en forme le matin pour ses interventions, Flavien a préféré dormir à l'hôtel et pas au centre où on dormait tous pendant les 4 jours du rassemblement, parce qu'il paraît que 200 jeunes, même la nuit, ça fait du bruit, il paraît. Ah, je confirme. Et donc à l'hôtel, c'est un tout petit hôtel-restaurant, c'est paumé, c'est au Mazet-Saint-Voix, paumé sur le plateau de Haute-Loire là-haut, un tout petit hôtel-restaurant. Eh bien, il a fait connaissance de la gérante, hein, il n'y avait pas foule. La gérante, elle tient cet établissement depuis des dizaines d'années, un peu toute seule, elle est proche de la retraite, toute seule, elle gère l'hôtel-restaurant, la totalité. Et ils ont beaucoup discuté. Ils avaient le temps. Elle lui a parlé de sa vie de gérante de ce petit hôtel. Il se trouve que son hôtel est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc régulièrement, elle a des pèlerins qui s'arrêtent. Et un jour, un jeune homme s'arrête à l'hôtel. Il faisait le pèlerinage et il a dit à la dame que dans son pèlerinage, il a décidé de faire le bien partout où il passerait. Alors il a proposé à la dame de l'aider à faire la vaisselle de l'hôtel avec elle ce soir-là. Le soir arrive, ils font la vaisselle ensemble, puis le jeune homme va dormir et le lendemain, il repart pour la suite de son pèlerinage. Elle raconte ça à Flavien et Flavien lui dit « Ah, mais c'est super gentil de sa part !» Et la dame lui répond « Bah, pas vraiment. D'habitude, je mets toute la vaisselle sale dans la machine. Je la lance pas parce qu'elle fait trop de bruit pendant la nuit, je dors au-dessus, donc je vais me coucher assez tôt. Et le lendemain seulement, je mets la machine en marche pendant que je prépare le petit déjeuner. Quand j'ai fini de préparer, c'est propre, je peux ranger la vaisselle. Mais là, avec ce jeune homme, elle a dû faire la vaisselle à la main. En plus, comme il ne savait pas où se ranger les choses, elle devait tout le temps s'arrêter pour le lui indiquer. Elle a fini très tard, très fatiguée. Elle a perdu plusieurs heures de sommeil cette nuit-là. Alors Flavien lui a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas simplement refusé son aide ? Elle lui a répondu, mais ça lui faisait tellement plaisir. J'ai pas voulu dire non. Dans cette histoire, s'il y a bien une personne qui a réellement fait le bien par amour, sans penser à son intérêt personnel, c'est pas le jeune homme, c'est la dame. Le jeune homme recherchait des choses pour lui-même dans son pèlerinage. Ses bonnes actions étaient intéressées. Elles visaient à rendre encore plus beau, plus profond, plus fructueux son pèlerinage. Ça servait à lui faire du bien à lui, à pouvoir se dire à lui-même « Je suis quelqu'un de bien qui fait le bien autour de moi. » Mais à aucun moment il ne s'est intéressé à cette dame. À aucun moment il a réellement aimé cette dame, cherché à comprendre comment il pourrait aimer cette dame. Elle n'était finalement, même si je pense qu'il n'en a pas conscience, elle n'était pour lui qu'un moyen de faire une bonne action. La dame, elle, avait bien compris tout ça. Elle avait vu que pour ce jeune homme, eh bien, il recherchait quelque chose pour lui-même. Et elle avait compris ce qu'il recherchait. Alors, par amour pour lui, cette dame, sans rien dire, sans penser à elle, a offert à ce jeune homme ce qu'il désirait vraiment. Elle a réellement agi par amour. Lui s'est positionné comme un sauveur, avec des motivations tournées finalement vers lui-même, mais c'est cette dame qui avait vraiment des motivations d'amour. Lorsque la parole de Dieu nous appelle à faire le bien, ce n'est jamais un but en soi. On ne fait pas le bien pour simplement faire le bien. On ne fait pas le bien pour avoir la satisfaction de la mission accomplie. On ne fait pas le bien pour plaire à Dieu ou pour éviter de lui déplaire. Mais Dieu nous appelle avant tout à laisser son Saint-Esprit changer, transformer et purifier les motivations de notre cœur. Dieu veut mettre dans notre cœur ses propres motivations. Il veut que nous désirions ce que lui désire. C'est ce qu'il veut réaliser par son Saint-Esprit en nous. Enfin, si nous le laissons faire, si nous le désirons avec lui, si nous nous nourrissons de Dieu et de sa parole au quotidien dans notre vie. Et justement, quelle est la motivation de Dieu ? Pourquoi Dieu donne-t-il ? Pourquoi Dieu se donne-t-il ? Et pour en venir à nouveau au sens de l'événement de Noël, pourquoi Dieu a-t-il décidé de s'humilier pour devenir un humain, jusqu'à naître comme un bébé dépendant de sa mère ? Oui, c'est vrai, la Bible nous dit que Dieu est devenu un homme, Jésus-Christ. Oui, ce Jésus est venu sur terre afin de subir à notre place ce que méritaient toutes nos mauvaises actions, le fruit de toutes nos mauvaises motivations. Oui, Jésus a donné sa vie afin de pouvoir nous pardonner et nous offrir ensuite la vie avec Dieu. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait tout ça ? Quelle était la motivation qu'il a mis en action ? Sa motivation, Dieu nous la raconte dans un des versets de la Bible les plus connus par les chrétiens que Thomas nous a lu tout à l'heure, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Pourquoi Dieu donne-t-il tant ? Parce qu'il aime tant. Voilà la seule et unique motivation de Dieu. Dieu donne parce qu'il aime. Dieu se donne parce qu'il nous aime. Et cette motivation, Dieu veut qu'elle devienne aussi la nôtre, profondément ancrée, enracinée en nous. Et ce changement profond de motivation, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le faire dans notre cœur. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 22 à 24. Je vais lire ce texte, juste en le paraphrasant, en faisant des parenthèses pour l'expliquer un peu au fur et à mesure qu'on le lit. Voici ce texte d'Éphésiens 4. « Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. » Ça veut dire que nos anciennes motivations, nos anciens désirs étaient mauvais pour les autres comme pour nous. Cela consiste donc à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. Ce qui oriente notre pensée, donc nos motivations profondes dans le cœur. Et je continue, et cela consiste à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, donc conformément aux motivations de Dieu. Le but de tout cela, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Et c'est cette vie juste et sainte, c'est ça, c'est là où se trouvent toutes les bonnes actions que Dieu désire pour notre vie. Vous remarquerez que les bonnes actions viennent naturellement après le renouvellement du cœur de la personne. Dieu veut enlever de notre cœur nos anciennes mauvaises motivations ou nos motivations parfois un peu bancales, tordues. Il veut à la place nous revêtir de ses motivations, de ses pensées, de ses désirs, c'est-à-dire de son amour pour les autres, afin de produire dans notre vie des œuvres bonnes, c'est vrai, mais qui soient réellement des actes d'amour. En ce troisième dimanche de l'Avent, ne pensons pas avant tout à faire le bien. Ne pensons pas avant tout en termes de bonnes actions. Mais que ce temps de l'Avent soit pour nous l'occasion de réfléchir avant tout sur les motivations de Dieu à Noël. Dieu envoie son Fils. Dieu donne son Fils parce qu'il nous aime. Que ce temps de l'Avent soit aussi l'occasion pour nous de demander de l'aide à Dieu. Nous l'avons dit, il n'y a que son Saint-Esprit qui puisse réaliser ça dans notre cœur. Alors Seigneur, je veux que tes motivations deviennent les miennes, je veux désirer ce que tu désires, mais je n'y arrive pas, je ne peux pas changer mon cœur. Mais toi, tu le peux. Alors Dieu, viens dans mon cœur, viens dans ma vie pour me changer, pour me transformer. C'est le plus grand désir de ma vie.